réalité en face de laquelle on est. C'est-à-dire, bien sûr, il y a quelques femmes, bien sûr, il y a des femmes qui arrivent à se défendre, bien sûr, il y a des femmes qui arrivent à gagner leur vie, etc. Mais ça reste toujours l'exception. Et même si on arrive à les trouver, c'est pas évident. On peut arriver à les trouver, les historiens peuvent arriver à les trouver. Ou même maintenant, on va dire, regardez tel ministre, regardez tel professeur d'université, gna 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 gna. Et puis en fait, toutes les autres, elles sont invisibilisées. Et on en conclut que parce qu'il y a, je sais pas, 5% des femmes qui ont des positions égalitaires, ah ben la société est égalitaire. Alors qu'en réalité, la société.
L'invisibilité.
Et cette façon de toujours dire, regardez, dans la pire situation, vous avez trouvé une femme, je ne sais pas, Jeanne d'Arc, pour prendre le cas français, qui va faire un truc vraiment invraisemblable. Mais voilà, et du fait qu'il y ait eu Jeanne d'Arc, elle supposait même qu'elle ait fait tout ce qu'on lui attribue, ça ne donne rien du tout sur la position de toutes les autres.
Alors qu'elles sont là et on découvre par d'autres moyens.
Justement, je trouve que c'est probablement, c'est moi en tout cas, c'est le sens de mon propos, de ma recherche en général, c'est pas des spoliations, c'est pas des manques de droits. Comment on essaie de nous faire croire ? Alors maintenant, on ramène toutes les choses à la logique du droit. Alors, le droit français, le droit européen, les droits français en particulier, ils sont parfaits. Donc, par rapport au droit, toutes les spoliations que vivent les femmes, eh bien, c'est une injustice, c'est une spoliation, c'est une agression, etc. Mais en réalité, dans la réalité, l'écart entre les pratiques sociales et le droit est très important et plein de femmes subissent, acceptent, reproduisent, demandent ce que le droit présente comme une spoliation. Donc il faut bien qu'on comprenne ça pour comprendre pourquoi il y a tellement d'écart entre le droit et la pratique sociale. Et bien sûr que les hommes, peut-être on peut dire, les hommes ont plus d'intérêt à cet écart que les femmes, mais quand même, c'est l'ensemble social qui demande, qui maintient cet écart. Ce n'est pas les hommes qui appliquent sur les femmes une chape de plomb pour les empêcher de bouger. C'est les femmes aussi qui diffusent ce modèle de société, qui le revendiquent, etc. On le voit dans toutes les études et vraiment à tous les niveaux.
Vous avez signé la critique et la chronique du monde.
Non, sûrement pas. Mais encore là, on le voit. D'une certaine façon, moi, c'est que, par exemple, c'est critique. Pourquoi bien qu'on s'occupe de ce que pensent ces 30 ou ces 100 femmes qui ne représentent rien du tout? Voilà, sinon, buzz médiatique, sinon, une représentation sociale à laquelle on n'est pas obligé de souscrire, sinon, un niveau intellectuel qu'on n'est pas obligé de valoriser, etc. Mais c'est vraiment ces modèles-là de fonctionnement, de jugement sur les pratiques sociales qui amènent plus de choses, de plus d'erreurs dans la façon qu'on a de juger les inégalités sociales. Et je pense que vraiment c'est là qui est le problème. Et je suis vraiment très intéressée par ta communication parce qu'on le voit, on voit ce truc-là partout, tout le temps. Et là, on le voit vraiment très bien dans l'exemple que tu indiques où on voit des femmes qui font des choses, qui se défendent, qui achètent, qui vendent, etc.
Si vous
voulez
ne pas être de Jérusalem.
Oui, et donc ils doivent aussi jouer les coudes. Hein. On voit bien aussi que quand on regarde à tous les endroits, qui joue des coudes, jouent des coudes ceux qui ont besoin. Et pour les femmes, c'est pareil que pour les hommes. Et les femmes qui jouent des coudes sont souvent des femmes qui ont plus besoin que d'autres.
C'est ça. Oui, donc c'est souvent une question de socio-économique.
Si tu veux,
je me permets juste sur une remarque, parce que bon, c'est pas du tout ma période, hein, moi, mais par rapport aux rapports sociaux que vous évoquez, je pense que le fait qu'effectivement que les femmes reproduisent cette oppression, c'est pas tant qu'elles soient complices entre guillemets, mais justement que la violence est tellement forte qu'elle est intégrée. Donc je pense que c'est, ça prouve encore plus la.
Oui, sauf que l'intégration et l'intériorisation, comme vous dites, c'est un système formatif global. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas qu'à chaque génération, on réintègre la domination. Le problème, c'est que la domination soit normative. C'est très différent. Parce que la domination est. Elle est véhiculée par les femmes. Elle est véhiculée par les hommes et les femmes, hein, mais elle est véhiculée aussi par les femmes. Elle n'est pas seulement subie par les femmes, elle est véhiculée. Et la transmission est longue, et ce qu'on regarde, c'est intéressant, moi qui suis sociologue, ça m'intéresse toujours de travailler avec les historiens, parce que vous pouvez regarder aussi loin que vous voulez dans le passé, vous allez toujours retrouver ces mécanismes. Donc on est héritière de ces mécanismes-là, qui prennent des formes différentes, mais à peine différente. Et justement, la logique de l'intériorisation de la domination, c'est beaucoup trop limité dans la lecture de la façon dont fonctionnent les sociétés. Il y en a plein d'exemples, peut-être le plus facile à évoquer en deux mots, c'est celui de la maternité. Le rapport des femmes à la maternité, voilà, bon, c'est l'expression même de la domination, et pourtant, Dieu sait qu'elle est véhiculée par les femmes et revendiquée par les femmes, etc. Et pas depuis hier matin. Et donc là, on en voit, bon, c'est un bon exemple, je le dis pour faire vite, mais c'est pas du tout une domination intériorisée à partir de la naissance, c'est une domination intériorisée à partir de 50 000 générations avant. Mais si tu veux, René, je vais dire rapidement ce que je vais devoir partir.
C'est ça. Donc, je veux remercier encore pour Moussa, et je passe la parole tout de suite à Sylvia Teneff, le professeur. Sociologie à l'Université de Tours.
Je vais dire rapidement, d'abord je veux remercier Randy d'avoir pris mon texte dans ce contexte-là, dans cette logique comparatiste, mais la comparaison, elle est en fait, moi ce qui m'intéresse bien, c'est très souvent, enfin j'ai travaillé pas mal sur le monde méditerranéen, et ce qui m'intéresse le plus, c'est parce que je suis sociologue et pas historienne, c'est l'idée qu'on se fait dans le Maghreb, que je connais mieux que le Moyen-Orient, du droit européen ou de occidental en général, avec l'idée que tout baigne de notre côté, y a pas de, on est dans une société égalitaire, on a des droits, on les revendique, alors que c'est pas du tout comme ça, et que l'écart de comportement des gens dans notre pays, c'est ce que l'anthropologie nous montre, c'est ce que l'ethnographie nous montre, et aussi la sociologie, c'est-à-dire c'est des comportements hérités complexes. C'est pas une application du droit. Et je suis toujours frappée par exemple, quand des personnes immigrées en France essaient d'intégrer la société française, comme c'est difficile de comprendre ce qui se passe dans les familles, dans l'organisation, comme c'est difficile dans tous les pays. Et dans les pays occidentaux et en France en particulier, bien sûr qu'on ne vit pas avec le droit. Bien sûr que dans les familles, on n'applique pas le droit, on s'en fout, c'est même pas qu'il existe. Et on continue à faire ce que tout le monde fait depuis tout le temps. Et donc c'est la grande machine normative, les systèmes de valeurs qui sont diffusés dans une société, qui peuvent permettre de comprendre les écarts de comportement et comparer de pays à pays. Moi, je trouve plus intéressant de comparer des choses qui se passent en France avec ce que Moussa dit des familles, de la reconnaissance, de la répartition des familles dans la société, que sur le droit strictement. Par exemple, je dis très souvent, dans la société française, les femmes sont beaucoup moins autonomes économiquement que dans les sociétés de droit musulman. Dans la société française, notre droit est strictement égalitaire, mais on ne vit pas le droit égalitaire. Dans la plupart des familles françaises, les femmes ne revendiquent rien sur la gestion collective de l'argent commun. Elles donnent leur argent, on mélange l'argent, donc elles n'ont pas une petite cagnotte dans leur coin pour le cas où elles auraient quelques ennuis avec leur mari. Et si une femme faisait ça dans la société française en général, hein, si une femme faisait ça, les autres diraient, mais tu as vu ce qu'elle fait, elle met de l'argent de côté, mais de quel droit elle fait ça, alors qu'elle a le droit, juridiquement elle a le droit, mais on ne le fait pas, alors que c'est une pratique très courante dans le monde musulman, et des tas de choses comme ça qu'il faut regarder, la société ne vit pas selon le droit se construit à partir des exigences temporaires de la société. Donc je crois qu'il faut bien comprendre ça. Donc c'est pour ça que je trouvais que la comparaison était intéressante, et je te remercie d'avoir accepté mon texte dans cette logique-là. Et moi, ce que j'ai voulu dire dans ce texte, je vais le dire très rapidement, c'est trois choses. D'abord, qu'est-ce que c'est la propriété privée en France ? Il faut savoir que c'est pas un truc qui vient d'arriver hier matin non plus. Donc, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Comment on le comprend ? La deuxième chose que je veux essayer de dire, c'est une réalité, tous les sociologues, tous les gens qui font des études sur le genre le savent, les femmes sont plus pauvres que les hommes, voilà, c'est une réalité universelle. Bon, elles ne le sont pas par nature, elles le sont pour plein de raisons, et donc on peut, en France, c'est hyper évident à, on va dire, deux tiers, un tiers, hein, les femmes sont, elles ont l'équivalent de deux tiers des propriétés de toutes les ressources, quoi. Alors que les hommes ont 100%, les femmes ont un peu plus de 50% en comparaison des ressources, toutes ressources confondues. Donc on est toujours, surtout sur les salaires, sur les retraites, sur les biens immobiliers, sur les biens mobiliers, sur les biens financiers, surtout, on a au moins. Oui, bien sûr, maintenant, et avant aussi, et maintenant encore. Alors qu'on est en droit égalitaire. Ça ne devrait pas exister si le droit était le fonctionnement de la société. Mais le droit n'est pas le fonctionnement de la société. Donc bon, les femmes sont plus pauvres que les hommes, j'en donnerai quelques exemples. Et puis j'essaierai, pour être un peu moins sévère, de dire quelles sont les formes de résistance ou de résilience des femmes, notamment dans l'injustice de la disposition des ressources, qu'est-ce qu'elles font de différent et qui va dans l'évolution des sociétés actuelles, peut-être davantage que les sociétés passées. Alors, qu'est-ce que c'est la propriété en France ? D'abord, la propriété en France, jusqu'à la Révolution française, elle est très inégalitaire. Ça, il faut quand même s'en rendre compte. Je crois qu'on s'en rend pas assez compte. Elle est très, très inégalitaire, avec des particularités qui ont plus ou moins disparu, mais pas tout à fait disparu. Comme il y a une grande partie de propriété en biens communs dans la société féodale, on garde ça, par exemple, je vous donne juste cet petit exemple, dans la plupart des territoires d'outre-mer français, c'est sur des territoires qui étaient des territoires de biens communs, et bien le droit français actuel en ce moment se casse la tête pour savoir comment faire pour transformer ce foncier commun en foncier attribué à un propriétaire. Alors qu'il ferait bien mieux de le laisser en foncier commun, mais bon, tous les juristes se le cassent la tête. Oui, tout, plein de choses de ce qui était géré comme les communs, par exemple La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie ou aux Antilles, etc. On est sur un foncier qui est commun et maintenant c'est pas possible. Le droit français admet pas cette logique-là, donc on essaie de bricoler le droit pour voir comment on peut faire changer ça. Donc cette propriété très inégalitaire, elle est un des ressorts les plus importants de la Révolution française, et ce que les hommes vont réclamer en 1789, c'est le droit à la propriété. Ceux qui n'ont pas le droit à la propriété vont réclamer le droit à la propriété. Et le droit à la propriété devient, à partir de la Révolution française, l'expression, le synonyme de l'égalité, de la République. De l'égalité, c'est on a le droit d'être propriétaire. Et ça construit en France la citoyenneté. Donc, sans citoyens, ceux qui ont le droit à la propriété, pas forcément ceux qui sont propriétaires, mais ceux qui ont le droit à la propriété. Qui a le droit à la propriété au début avec le code de 1804 ? Ben, bien sûr, pas tout le monde, comme vous le savez. Les femmes, un peu, mais pas beaucoup. Les esclaves, puisque la France a l'esclavage, pas du tout, etc. Donc, le droit, qui est citoyen ? Qui a le droit de gérer la République ? Ben non, il y a déjà plein de gens qui n'entrent pas dans cette catégorie. Alors, les femmes, par exemple, ne sont pas citoyennes, elles ne votent pas, elles ne gèrent pas l'État, etc. Donc, leur rapport, même le fait de propriété ne les construit pas en citoyennes de la même façon que les hommes, parce que le processus est inverse. C'est le droit à être citoyen qui a généré la propriété privée à travers le mouvement révolutionnaire. Donc, il y a une imbrication assez compliquée sur ce qu'est le droit de la propriété, la citoyenneté, la notion de république dans la société française qui s'est figée avec l'idée, tout le monde a l'idée que là, à partir de la Révolution ou à partir du code de 1804, c'est égal. Ben non, c'est pas égal du tout. C'est égal pour les hommes, et pour les hommes qui sont plutôt des possédants, et les hommes qui ne sont pas des esclaves, et les hommes qui ne sont pas au service des autres, etc. Les hommes qui peuvent payer le sens, qui peuvent payer l'impôt, voilà. Donc, cette première question-là, ben, elle reste tout le temps, parce qu'on va avoir tout le temps des réapplications de ce droit, c'est-à-dire le droit égalitaire. Bon, alors, on va corriger toutes les virgules dans notre droit pour dire non, ben oui, les femmes ont le droit de propriété, oui, les hommes qui ne sont plus des esclaves ont le droit de propriété, etc. Donc, tout le monde finit par avoir le droit initial, sauf qu'on ne rétablit pas les pratiques sociales, c'est-à-dire on ne leur redonne pas toute la citoyenneté qui va avec, on ne leur redonne pas le pouvoir, on ne leur redonne pas le pouvoir économique. Et on le voit très bien, je fais un peu vite, mais on le voit très bien quand on regarde maintenant la situation des femmes françaises maintenant, elle est très très inégalitaire par cet héritage. D'abord, l'accès des femmes au travail et salarié, parce que je prends que la question du salariat, elle n'est pas récente. Les femmes ont travaillé, ont été salariées depuis très longtemps, mais les femmes deviennent salariées de façon plus importante, un nombre de femmes plus important devient salarié seulement après les années 70, 1970. Hein. Le moment où en France il y a le moins de femmes salariées, c'est 1960. Hein, c'est pas au Moyen-Âge, c'est 1960. C'est l'étiage du salariat féminin. Après, le salariat va remonter. Dans les années 60-70, c'est parmi tous les actifs, il y a seulement un tiers de femmes. Alors que maintenant, on est à la moitié des femmes, à peu près, pas tout à fait, mais pratiquement la moitié des femmes. Donc c'est normal, puisqu'il y a à peu près moitié de femmes. Maintenant, on est en situation normale, alors qu'avant, avant, il y a 50 ans, on était en situation très décalée de ce point de vue. Alors, le salariat des femmes, ça reste quelque chose d'incroyablement injuste et inégalitaire en France, puisque pratiquement l'écrasante majorité des femmes, c'est près de 80% des femmes, travaillent sur 3 ou 4 emplois seulement, qui sont les emplois les moins qualifiés et les moins bien payés. 80% des femmes travaillent sur tous les emplois les moins qualifiés et les moins payés, c'est-à-dire garde d'enfants, travailler dans les hôpitaux, dans les services publics, etc. Alors, quand quelqu'un vient vous dire qu'il y a 0,% de femmes qui sont profs d'université ou PDG de société, ben vous pouvez applaudir largement en disant « Ah oui, comme nous sommes une société égalitaire !» Mais et les 80 autres pourcents qui sont caissières dans les supermarchés avec du travail à temps partiel imposé, etc., et qui gagnent rien du tout ? Ah ben non, elles ont tous les droits, celles-là, hein, parce qu'elles ont effectivement tous les mêmes droits que les autres, sauf qu'elles n'ont pas la possibilité sociale de les actualiser. Donc il faut absolument regarder ça. Alors, sur le salaire, ça se voit très bien. Sur le temps partiel, ben c'est 80% des femmes qui font le temps partiel. Il n'y a pas photo. Sur l'ensemble des salariés à temps partiel, il y a 32% de femmes, il y a 6% d'hommes. Voilà, c'est tout. Ça dit l'écart entre les hommes et les femmes. Bon, toutes les statistiques, plein de statistiques. Beaucoup de recherches de sociologie ont été faites sur le travail féminin. Et donc, il n'y a absolument aucun poste de travail féminin qu'on peut regarder comme favorable aux femmes. La totalité des emplois est défavorable aux femmes. Et alors, il y a toujours aussi quelqu'un qui vous dit la bouche en cœur, « Ah oui, mais dans la fonction publique, où on a un indice et tout le monde est payé pareil, eh ben, l'écart est aussi grand qu'ailleurs, pour la bonne raison que les femmes n'ont pas du tout le même déroulement de carrière que les hommes. » Voilà. Et puis, bon, je ne vais pas vous en rajouter comme ça. Donc, sur les salaires, c'est-à-dire les ressources, l'acquisition de ressources qui vient par le travail de cette façon-là, donc on voit que les femmes sont défavorisées. Quand on regarde sur les retraites, c'est encore pire, parce que sur les retraites, les conditions de travail qui font que les femmes qui sont maintenant à la retraite ont très peu travaillé, ou comme je viens de le dire, sur des emplois mal payés, etc. À la fin, tout reste pareil, sinon pire. Et donc, de nouveau, on a un écart important sur les retraites. Et c'est important pour la propriété, parce que c'est quand on est âgé qu'on est propriétaire. Et donc, plus quand vous êtes âgé, vous avez accumulé de biens ou de propriétés, et plus vous allez en avoir. Et comme les femmes vivent plus âgées que les hommes, plus elles vont en avoir. Et comme elles en ont tout le temps moins, et bien à la fin, elles en ont encore moins. Alors quand on regarde par exemple la propriété des plus de 65 ans et qu'on compare la propriété des veuves de plus de 65 ans et la propriété des couples de plus de 65 ans, et bien rebelote, l'écart est de 40%, c'est-à-dire que les femmes sont 40% de moins propriétaires de leur logement quand elles sont veuves à 65 ans que les couples de plus de 65 ans. Quand on regarde, donc là on regarde la propriété du logement en France, dans plein d'endroits, mais en France c'est un élément important de la stabilisation sociale et de l'organisation familiale. Donc on peut se dire, bon, c'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas énormément d'argent, qui ne sont pas propriétaires de leur logement, mais assez bas dans les classes sociales, on a la propriété du logement en France, puisqu'on est à 60%. De Français qui sont propriétaires de leur logement, donc ça descend assez bas dans les niveaux de revenus. Et donc quand on regarde seulement sur la propriété du logement, on est sur des gens qui peuvent être employés, enfin qui peuvent avoir eu des positions sociales assez modestes. Après, quand on regarde au-dessus, sur les biens mobiliers et financiers, on commence à changer de catégorie sociale quand on a la possibilité d'avoir des actions à la banque, des placements financiers, des biens mobiliers, des tableaux, des je ne sais pas quoi. On est dans une autre catégorie sociale. Donc là, on pourrait penser qu'on a une forme de rattrapage, puisque les femmes de ces milieux sociaux-là, généralement l'homogamie est très forte en France, donc elles sont déjà elles-mêmes de milieu social aisé, elles ont hérité, etc. Et même quand on regarde ça sur les biens mobiliers financiers, les femmes restent toujours avec environ un tiers de biens en moins que les hommes. Pour expliquer cette différence là, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme argument? Eh bien, on peut essentiellement utiliser des arguments qui sont des arguments de type culturel, c'est-à-dire plusieurs choses. D'abord, les femmes ne sont pas socialement encouragées à l'initiative et à l'initiative économique. Dans notre société, les filles choisissent des orientations de formation qui sont rarement les SEC, et plus souvent la psychologie de l'enfant. Donc voilà, pouf, ça vous fait tout de suite d'emblée un écart de comportement pour jusqu'à la fin de votre vie. Comme vous le savez, on a voté une loi pour obliger les sociétés à mettre des femmes dans leur conseil d'administration et dans leurs instances de direction. Mais là aussi, c'est pareil. Comme pour les partis politiques, ils préfèrent payer des amendes que de faire remonter des femmes. Alors ça en fait remonter, mais ça en fait pas remonter de façon très importante. Et à nouveau, celles, on arrose ou c'est mouillé, c'est-à-dire que vont aller dans les conseils d'administration les femmes qui sont déjà des femmes qui sont sorties de l'inégalité sociale, ou parce qu'elles sont héritières, ou parce qu'elles ont des niveaux de formation élevés, ou parce qu'elles sont déjà elles-mêmes sorties de l'emploi déqualifié pour être sur des emplois qualifiés. Donc quand vous prenez quelqu'un qui est déjà une femme qui est déjà qui a un niveau d'instruction élevé, qui est héritière et qui est chef d'entreprise, et que vous la mettez dans le conseil d'administration d'une plus grande entreprise, ben vous avez fait certes féminiser les conseils d'administration, mais vous n'avez pas changé le comportement de la masse sociale, et en particulier pas fait bouger beaucoup l'ensemble des femmes qui, elles, continuent à être complètement déconnectées des milieux économiques et notamment des milieux de pouvoir. Donc là, on a un système, disons, d'orientation, de valeur, d'encouragement global qui ne favorise pas l'avancée des femmes dans les lieux de pouvoir et en particulier du pouvoir économique. Après, il y a certainement un autre facteur qui joue très très fortement, alors on le voit jouer dans toutes les sociétés, à mon sens, à moi on ne l'étudie pas suffisamment, c'est l'organisation familiale. Quand on regarde par exemple les sociétés qui ont des systèmes lignagés plutôt que des systèmes de parenté familiale nucléaire comme les nôtres, on est plus souvent en propriété foncière des communs, la terre qu'on partage est plus grande. C'est vrai aussi de toutes les lignées, par exemple la société féodale, on ne vend pas, on ne coupe pas en petits morceaux des grandes propriétés terriennes, mais c'est vrai partout dans le monde. Quand il y a des lignages importants qui gèrent, ben les propriétés sont plus grandes. Et quand on passe en famille nucléaire, on commence à... C'est pas étonnant non plus que ça apparaît pour nous dans notre droit au niveau de la Révolution française. On passe sur des structures familiales qui sont beaucoup plus restreintes. Et donc on va entrer dans un système de propriété. On va pouvoir avoir des petites parcelles. Et c'est intéressant de voir qu'à Jérusalem, c'est les, je ne sais pas si on peut dire ça, les riches pauvres ou les pauvres riches qui se défendent pour avoir un petit bout de terre, et on va avoir exactement la même chose ici où la propriété, regardez ce qu'est la propriété du logement en France à l'heure actuelle et vous allez voir que c'est à écrasante majorité une propriété dans un lotissement avec 300 mètres carrés de terrain et une maison qui vaut quasiment rien du tout. C'est comme ça qu'est répartie la propriété. Par exemple, il y a plein d'indications statistiques sur la propriété du logement qui montrent que quand on regarde où se trouvent les maisons des gens qui ont droit au prêt à 0%. Des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus ont droit à ce qu'on leur prête une partie d'argent à 0% d'intérêt pour les favoriser. Eh bien, pour toutes les villes, c'est ce qui est le plus loin autour. Le plus loin autour, ça veut dire pas de bus, pas de service, rien du tout. Et donc, un système de pauvreté qui se reconstruit à travers la propriété. À travers la propriété. La propriété, c'est pas partout la même chose. Hein. Et donc là aussi, on va y retrouver les gens les plus modestes avec des difficultés, mais on va y retrouver aussi, par exemple, des femmes âgées après qui restent à Pétaouchnok, très loin, qui ne peuvent plus aller dans les centres-villes, etc. Donc tout un ensemble de problèmes sociaux qui sont régénérés par la volonté même des gens qui ont choisi de faire ça et qui ont pensé qu'en faisant ça, ils étaient éventuellement en ascension sociale. Donc, plein de choses peuvent être dites sur ça. Et ce qui m'avait intéressé, c'est qu'il y a eu une étude de l'INSEE qui est parue sur les biens mobilier, immobilier, le patrimoine mobilier, immobilier des femmes et des hommes, et regarder du côté des femmes il y a un an ou deux, et cette étude montre que tout système patrimonial confondu, on garde toujours la même structure. Donc, l'organisation familiale, le fait que les femmes sont en charge des enfants, le fait qu'elles vivent la nécessité d'avoir et d'éduquer des enfants, les font aussi choisir des métiers qui vont dans ce sens, les cantonnent à des professions de service, etc. Et donc alimentent de façon très importante les pratiques sociales inégalitaires. Inégalitaires, mais choisies. Inégalitaires, mais voulues. Alors, elles ne choisissent pas l'inégalité, elles ne choisissent pas de se trouver défavorisées, mais elles choisissent les enfants, mais elles choisissent des formations comme ci ou comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué de seulement dire que la domination est intériorisée. Elle est bien plus qu'intériorisée. Elle est notre façon de vivre. Et le dernier point, très très rapidement, quand on regarde dans cette mauvaise situation dans laquelle se trouvent les femmes, globalement, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on voit d'abord que quand on regarde, parce qu'on est plutôt en période de crise, et on est plutôt en période de crise sur la propriété foncière, puisque maintenant, si on veut avoir un logement qui a beaucoup de caractéristiques positives, qui est près des villes, près des services, dans des lieux agréables, etc. Ces logements-là sont devenus tellement chers qu'ils ne sont plus accessibles aux classes moyennes en France, seulement aux élites sociales, plus aux classes moyennes. Et donc, un grand, grand nombre de personnes, y compris de jeunes, des gens plus jeunes, quand je dis jeunes, c'est au moins entre, mettons, 20 ans et 50 ans, n'ont plus accès à ces ressources-là. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde part plus loin. Et donc, on a des populations qui ont un niveau de formation élevé, qui pourraient, qui, disons, 50 ans avant, auraient pu avoir droit à ces ressources valorisées et qui en sont exclus. Donc ceux-là, ils essaient de trouver des solutions. Donc eux, pour eux, la situation instable, c'est tous les jeunes couples entre 25 et 45 ans avec des jeunes enfants qui n'ont pas les moyens de se payer un appartement de 200 mètres carrés au milieu d'Aix. Ah, et ça, vous voyez, il y en a un stock. Hein. Et donc, il faut qu'ils trouvent des solutions. Et souvent, ceux-là même sont maintenant dans des emplois précaires et ne peuvent même pas avoir le prêt bancaire, donc ne peuvent même pas toujours s'acheter la maison dans un lotissement au fin fond de la campagne. Hein. Donc, ils cherchent d'autres solutions et on a... J'ai travaillé sur ça, c'est le sens de cet ouvrage-là. Que j'ai publié en 2016, Repenser la propriété des alternatives pour habiter, on voit de plus en plus se développer d'autres formes de propriété, d'autres façons d'habiter qui refont la place au partage, au commun, à l'habitat participatif, à la colocation, etc. Par exemple, sur la question de la colocation, c'est intéressant. J'imagine que vous devez savoir que, je ne sais pas, je dirais au moins jusque dans les années 1990, on faisait très très rarement des baux de location en colocation. Ça n'existait pas. On voulait qu'un seul locataire pour avoir un seul responsable, etc. Mais maintenant, la colocation, les baux en colocation, c'est hyper fréquent. Presque plein d'étudiants ont des baux en colocation, plein de gens ont des baux en colocation. Ça veut dire qu'on a changé sur le niveau de revendication de notre rapport à notre logement, qu'on valorise ou qu'on subit le partage, hein, parce que peut-être que, je ne sais pas si c'est mieux d'avoir 100 mètres carrés pour soi tout seul ou 100 mètres carrés qu'on partage à 5, alors ça peut être mieux de l'avoir pour soi seul en termes d'espace, c'est peut-être plus sympa de le partager à 5 en termes de sociabilité, mais vous voyez bien où se trouve cette espèce de curseur où on fait accepter aux gens de l'affaissement social en leur expliquant comme c'est mieux et plus amusant d'être pauvre et de partager sa pauvreté que d'être riche et tout seul et misérable dans son immense château. Hein. Je fais un peu rapide, mais on est dans ces logiques-là maintenant et on les voit se développer. Et bien les femmes, elles entrent bien, elles entrent mieux que les hommes dans ces logiques-là. Et c'est bien davantage les femmes propriétaires de logements qui prennent en colocation une autre jeune femme, enfin une femme âgée par exemple avec une autre jeune femme. Là, une méfiance à l'égard des hommes, les femmes portent bien davantage, rentrent bien davantage dans les projets d'habitat participatif, c'est-à-dire qui sont des ensembles de logements où il y a une part de services partagés, parce qu'elles se disent qu'il y a un partage des services, justement, auxquels elles pourront accéder, puis c'est des coûts moindres aussi. Et donc, on voit que sur les modifications actuelle des formes de propriété vers plus de partage, vers plus de cohabitation, vers plus de participation, eh bien, se déportent majoritairement les femmes, bien plus en tout cas les femmes que les hommes, ce qui on peut voir comme une forme de compensation à la situation moins favorable qui est la leur, ou une forme de d'avancée par rapport à des formes de propriété qui peut-être évolueront pour l'ensemble de la société à venir. Donc là, je vous ai tout fait en raccourci, je m'en excuse. Mais bon, c'est je crois, enfin, j'ai essayé de dire ce qui me paraissait les problèmes essentiels, à la fois pour montrer que cette question de propriété, notamment la propriété du foncier, permet bien de voir comment ça marche, la différence entre les hommes et les femmes. En France, rien n'interdit à une femme d'acheter n'importe quoi qu'elle veut, sauf son niveau de revenu. Et bon, voilà, ça n'a pas l'air de jouer ça. Et donc, on est bien en droit égalitaire, mais on n'est pas en pratique sociale égalitaire. Et donc on le voit bien, c'est un exemple intéressant parce que il semble qu'on entre dans une logique du confort social. Il y a encore plein de milieux sociaux et de pays où on n'en est pas à ce type de difficulté-là, mais néanmoins les mécanismes de l'inégalité demeurent et demeurent liés à des formes culturelles et à des formes familiales.
Merci beaucoup, Sylvain.
Pour la synthèse.
Moi, je me suis dit que c'est presque essentiel d'avoir une étude comparative dans ce numéro. Parce que quand on dit c'était une revue, c'est Hawa, la revue des femmes du Moyen-Orient et du monde musulman. Mais pour étudier, c'est comme n'importe quel sujet. Pour comprendre un sujet, il faut faire du comparatif pour comprendre son étude de cas. Et surtout pour la suite de ce programme et pour l'avenir, c'est essentiel. Parce que quelqu'un qui travaille dans un pays du Moyen-Orient, qui ne connaît pas la France, qui ne connaît pas l'Espagne ou Italie ou l'autre, n'aurait pas cru que les propos que tu viens de nous expliquer. Parce que, en Occident, les femmes ont des droits, etc. Oui, mais c'est le même genre de choses. Les droits peuvent être là, mais est-ce qu'ils sont mobilisés? Est-ce qu'ils sont utilisés à bon échéance par les uns et les autres? Et donc c'est tout.
Je vais dire une autre chose qui est moins connue, qui est plus historique en France. Normalement, l'héritage est égalitaire en France sur les enfants. Donc les enfants d'une famille héritent la part en proportion du nombre d'enfants, tout le monde la même chose. Mais il reste encore maintenant des zones d'héritage inégalitaire en France. Alors comment ça marche? Eh bien, dans les zones où il y a, notamment dans le sud-ouest de la France, où la propriété du foncier agricole était très importante, où il fallait garder une grande propriété et pas avoir plein de petits morceaux, eh bien, on décidait que c'est seulement l'aîné, en général un garçon, mais ça, avant c'était un garçon, mais même maintenant ça peut être un garçon ou une fille, c'est l'aîné qui va garder la propriété et pas nécessairement la racheter aux autres. Parce que dans le droit français, on peut faire ça si on veut, mais il faut, en théorie, il faut que celui qui garde paye leur part aux autres. Ben, les autres acceptent d'être spoliés pour que la propriété reste entière. Et donc, on, même maintenant, on se dit, mais pourquoi quelqu'un qui a peut-être besoin d'avoir quelques centaines de milliers d'euros qui ferait bien ses affaires, les laisse à son frère ou à sa sœur aînée parce qu'il reste sur la propriété? Eh bien, parce que culturellement, c'est plus important de garder la propriété que d'avoir un petit morceau d'argent. Et on a souvent des dissensions, alors avec les, ce qu'on appelle les alliés, c'est-à-dire les maris et les femmes de ces gens, parce que les maris et les femmes disent, mais comment, on a plein d'ennuis, puis toi tu laisses tout cet argent à ton frère alors qu'on pourrait l'avoir. Mais le poids du système culturel est plus fort que la loi.
Sauf que s'ils allaient au tribunal...
S'ils vont au tribunal, oui, mais justement, ils acceptent.
C'est comme ça qu'on a exploré la propriété oui. en Algérie, dans l'Algérie coloniale.
Oui, oui. Mais justement, ils n'y vont pas au tribunal. C'est là la force.
Il y a
force.
Tout le monde qui y va, quand même. C'est génération en génération,
oui,
ça c'est filoche.
Bien sûr, ça c'est filoche. Mm-hmm. Mais quand on regarde, par exemple, il y a une très belle étude de ce Montaillot, ouais. qui date des années 60, encore, c'est dans ça. Les années 60, on maintient... Okay. La grande propriété. Et, mais après, on le voit aussi encore assez bien au niveau de l'aristocratie, où on ne démantèle pas la propriété familiale, le château et les terres. Alors là, c'est pareil, il y en a un qui veut ci ou qui veut ça, mais normalement, le poids culturel pèse pour qu'on ne démantèle pas le bien familial.
C'était une des raisons, une grande raison pour lesquelles aussi on créait des fondations pour garder l'ensemble d'une propriété. Je voulais juste rapidement dire, revenir sur, je ne savais pas qu'il y avait des biens communs outre-mer, surtout peut-être en France aussi. Ouais. Ça pose problème pour faire la transition vers le droit, vers la propriété privée. Dans
public,
l'autre,
le domaine public,
public
et
privé,
public,
il faut que ça soit à quelqu'un. Dans le droit français, il faut que la terre soit à quelqu'un, ou à l'État,
oui,
ou à une collectivité.
Je sais, mais je ne savais pas que c'était un si grand problème.
Ah oui, c'est un problème.